mais dû exister comme ça. On aurait dû mettre les vaccins en bien commun d'humanité, à l'échelle européenne et à l'échelle française, mettre en place des structures de production larges des vaccins reconnus et lever les brevets. Bon. Et ça, les brevets et la liaison de la recherche fondamentale au privé, c'est une plaie de la recherche fondamentale à l'heure actuelle. Ça a gêné l'émergence de nouveaux traitements, ça a gêné l'émergence de la recherche de nouveaux vaccins, et dans l'état actuel, c'est inséparable d'un troisième aspect du problème, qui ne me concerne pas directement en tant que chercheur, mais qui me concerne en tant que médecin qui travaille dans un hôpital, la fermeture des liens
Oui, alors voilà, l'émission est démarrée, ça c'est parti très vite, hein, donc c'est une émission sur le virus. S'ils reviennent, c'est la Ligue des droits de l'homme qui fait cette émission et qui nous a demandé de repasser cette émission qui était très bien faite d'ailleurs, et qui revient sur le virus, comment ça s'est passé, on prend un peu de temps pour revenir en arrière et puis réfléchir un peu sur qu'est-ce qui nous a été dit de faire, etc. Comment ça s'est vraiment goupillé. Voilà, donc une émission très très belle, hein, de 90 minutes. Voilà, 1h32 pour être précis. Hein, je vous laisse avec cette belle émission. Voilà, et puis on vous reprendra après, eh bien, sans doute un petit peu plus tard, vers 21h et quelques, avec notre ami Henrik, Yves, Serge, etc. Voilà. Donc, à tout à l'heure, bonne émission.
La période de pandémie, ce qui donnait ce qu'on a vu sur Robert Debré, sur Saint-Louis, etc., ce qu'on appelait les jeudis de la colère, où le personnel sortait sur le thème, on fout de notre gueule, on ferme des lits en pleine période de pandémie. Et ça, vous l'avez vu sur Robert Debré, vous l'avez vu sur Tenon, vous pouvez venir l'avoir vu sur Saint-Louis tous les jeudis. Et débouchant sur le Ségur de la santé, qui était une véritable catastrophe. Et là encore, recherche immédiate. Si le gouvernement avait géré de façon prospective et sociale la sortie du confinement, il aurait pu utiliser la sortie du confinement pour tester, tracer, isoler et prévenir un nouveau bond. Dès juillet, août, on disait, les épidémiologistes sérieux disaient, et même les épidémiologistes de Marseille, hein, ils sont pas tous comme un certain bonhomme, il y a un risque de ressurgissement de l'épidémie. Bon, et donc, si on avait commencé à tester, tresser, isoler, on aurait pu le faire. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ben là encore, on a fait de l'économie de marché. On était très contents parce qu'on avait plus de 8000 tests par jour, puis plus de 10000 tests par jour. Puis on posait la question bête et stupide en tant que médecin, en tant que chercheur. Et qu'est-ce que vous en faites de ces 10000 tests? Ah ben rien. On sait qu'ils sont positifs. Et on sait qu'ils sont positifs. Et est-ce qu'on s'en sert pour traiter, dépister des gens? Ah ben non. Ça, c'est une bonne question. Bon. Donc, là encore, sur les tests sérologiques, sur les tests antigéniques, rien n'a été fait pour se donner les moyens, en tant que recherche, de limiter la pandémie. Et on retrouve dans la situation actuelle où, pour revenir à une situation où on pourrait maîtriser l'épidémie, il faudrait des mesures un peu à la limite de type vietnamien ou de type chinois, au point où on en est arrivé. Donc, dans l'état actuel, on gère en espérant que les vaccins nous permettront d'aller plus loin. Mais j'insiste beaucoup là-dessus. On voit très bien qu'il y a eu absence de prédiction et de financement de la recherche fondamentale, absence de mise en place de stratégies coordonnées ensuite pour le développement de vaccins et de vaccins alternatifs. Les vaccins ont eux-mêmes étouffé parce qu'il n'y avait pas de marché. Il y a déjà eu des précédents comme ça, la bile argent, etc. S'il n'y avait pas de marché pour les nouveaux médicaments, si les vaccins marchaient, donc aucune des grosses boîtes n'a fait des recherches sur les médicaments. Donc vous voyez que le système libéral est incompatible avec la prévention et le traitement d'une épidémie, sauf se faire de l'argent. Alors je tiens à dire que quand on dit, une dernière chose malgré tout, que je voudrais dire à titre personnel, on dit souvent que tel et tel traitement, les chercheurs le dénigrent parce qu'ils sont subventionnés par Big Pharma. Je vous cache pas qu'il y a des gens qui sont subventionnés par Big Pharma, dont des pseudo-épidémiologistes qui ont leur propre boîte d'épidémiologie et qui vont sur les différentes chaînes, BFM, TF1, etc., et qui n'ont rien à voir avec le sérieux. Mais enfin, nous, quand on dit que tel et tel traitement n'est pas bon, on n'est pas subventionné par Big Pharma. On le dit parce qu'on apprécie d'un point de vue scientifique. Mais, et on y reviendra probablement dans la discussion, là aussi, le système de publication de résultats rapides, plutôt que de résultats à long terme, ne favorise pas forcément la prospective en recherche. Voilà, j'espère vous avoir montré que le système libéral était incompatible avec la prévention de l'épidémie, qu'il a tout fait, au contraire de ce qui aurait dû être fait quand l'épidémie est arrivée, et on peut reprendre les déclarations fameuses sur le thème « nous sommes prêts, il n'y a aucune chance que ça arrive, on testera, etc. etc. » Et c'est un peu la même chose dans l'état actuel. Les mesures sont parfaitement incohérentes. Et en tant que chercheur, en tant qu'épidémiologiste, en tant qu'immunologiste, le coup du virus qui arrête de contaminer les gens dans le métro et avant 8 heures du soir, ça me paraît parfaitement stupide. Ça n'est pas une mesure réelle de prévention de l'épidémie. Voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gérard. Oui, c'était très clair. Jacques ?
Oui. Alors, je m'étais préparé. Je suis un peu déstabilisé, entre guillemets, c'est-à-dire, je ne vais pas refaire ou je ne vais pas parler en rebondissant sur ce qu'a dit Gérard. Je vais essayer de prendre, en fait. Alors, je ne sais pas si je peux partager l'écran en partie. Oui ?
Oui, oui.
Je vais prendre un axe. Enfin, je vais essayer de répondre ou de donner ma vision de comment on en est arrivé là. En partant, en faisant à la fois un pas de côté, un pas en arrière. Quoi. Alors, je vais essayer de le faire à partir de mes diapos. Donc, je partage l'écran si je peux. Ça doit être ça. Voilà. Est-ce que ça marche ?
Voilà.
Ouais. Non, ce que j'essaie, c'est de passer. Ah oui, voilà. Voilà. OK. Alors, je vais essayer de reprendre ça dans un cadre un peu général. D'accord ? Par rapport à ce qu'a dit Gérard, je vais essayer d'abord de définir. Je ne sais pas qui est biologiste ou qui est proche de la biologie santé parmi tout ce qui écoute. La problématique, en fait, sur qu'est-ce que sont les sciences du vivant, je vais essayer de les replacer. Quand je clique, ça, je vais essayer de les replacer en fait dans un cadre qui est que selon deux axes, un axe temporel et un axe transfert technologique. Donc, l'axe transfert technologique. Je distingue en fait ce qui est la science, donc définie par la question comment ça fonctionne, comment ça marche. Pour rebondir sur ce que dit Gérard, c'est quelles sont les études qu'on a fait sur les coronavirus à un moment donné, pourquoi, etc. Dans lequel il n'y a pas de finalité. Ensuite, il y a la partie biotechno, mais c'est la partie ingénierale, c'est qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce que je fabrique ou si je prends le côté médical, c'est comment je soigne. Pour arriver vers ce qu'on peut appeler l'innovation, entre guillemets, c'est-à-dire le fait de transformer en fait une connaissance en un produit, et donc c'est ce qui a été repris totalement dans le concept de économie de la connaissance, c'est-à-dire que la connaissance en tant que telle, qui devrait être un patrimoine, un bien commun, etc., est simplement considérée à l'aune de la performance de sa capacité à rentrer dans la création de richesses au sens le plus capitaliste du terme. Donc, transfert technologie, c'est ce passage-là de la science, comment ça fonctionne, la technologie, comment je fais, comment je soigne, le produit, comment je vends. Et puis un aspect temporel dans les biologies, dans la biologie, qui est la majorité de, enfin, si on part pratiquement de la préhistoire, en fait, tout biologiste au départ décrit quoi. Donc il fait de la systématique, hein, et il va faire des herbiers, il fait le musée de l'homme, le musée des plantes, le jardin des plantes, etc. En général, il n'y a pas de lien avec l'ingénieur. C'est-à-dire, c'est pas parce que je décris, je sais pas, le safran, enfin le crocus, que je sais utiliser dans une recette de cuisine le safran, ou c'est pas parce que je décris la levure que je sais que ça va m'être utile pour faire du pain ou de la bière. Ça, et en fait, donc, les recettes de l'ingénieurat dans cette première étape font en sorte que ingénieurs et scientifiques et chercheurs sont très très éloignés. Et les scientifiques construisent, enfin, ou la communauté scientifique va construire en fait un corpus de connaissances progressivement et de manière totalement collective et non individuelle. Il n'y a pas de risque, je dirais, ni de conflit d'intérêt, ni de lien d'intérêt, parce que entre le fait de décrire et le fait de fabriquer, le gap est tellement grand qu'il n'y a pas vraiment de lien à ce niveau-là. Dans une deuxième étape, on arrive en fait à une biologie qui devient plus, qui essaie de modéliser le vivant, qui va essayer de comprendre en fait comment la cellule fonctionne, mais au niveau quantitatif, plus que qualitatif. Et c'est parce qu'en fait, on rentre dans cette modélisation qu'il y a un lien qui se fait de plus en plus entre la connaissance sur le vivant et la partie ingénierie. Et que là commencent en fait les problèmes de valorisation et tout un tas de problèmes, en fait, éventuellement de liens d'intérêt, puisque l'être humain, enfin, ou le chercheur, comme tout être humain, est un peu faible, il se dit que s'il trouve quelque chose et s'il le transforme en, et qu'il devient, en fait, il passe une ligne rouge où il se dit ça peut se transformer, ou on l'incite à le transformer, en fait, en produit. Il se dit, en plus, avec ça, je vais devenir riche et je vais pouvoir, en fait, avoir beaucoup d'argent. Donc, là, les phénomènes d'incitation au lien d'intérêt, au fait de pouvoir manipuler la science, puisqu'on est dans un aller-retour entre, dans ce continuum, on n'a plus de séparation, en fait, mais un continuum réel, ça commence à poser le problème. Donc, je ne parle pas de la troisième étape, en fait, qui est, comme en physique, en fait, les théories unificatrices et qu'on pourrait voir arriver aussi au niveau du vivant. Cette transition, elle n'a pas passé. Et c'est vrai que cette transition-là, le fait de passer de la description à la compréhension, s'est accéléré avec ce qu'on appelle les omiques. Donc, le fait de comprendre que le vivant, c'était un système qui échangeait non seulement de l'énergie et de la matière, mais aussi de l'information. Et donc, l'entrée, en fait, de tout ce qui est la compréhension de l'ADN, la compréhension de l'information dans les cellules, a accéléré un peu aussi cette transition-là. Donc, ça, c'est pour expliciter, en fait, mon cadre de réflexion sur éthique et intégrité scientifique et sur un certain nombre de problèmes dont a parlé Gérard. Alors, je pars du problème en action, c'est que la science est un corpus de connaissances, c'est un bien commun qui n'est pas construit par des individus géniaux, mais qui construit en fait par un travail collectif à la fois dans le temps et dans l'espace. Et que pour faire ce travail scientifique, il faut une nécessité de liberté académique. C'est-à-dire que le chercheur doit être totalement libre de faire en gros ce qu'il a envie, quoi. En contrepartie, il est encadré par un certain nombre de normes qui sont l'intégrité scientifique, l'éthique et la déontologie. Et je vais définir ce que pour moi, c'est ces trois types de normes-là. Et donc, on a une construction collaborative de la science, un miroir d'une responsabilité sociale. L'évolution qui s'est passée dans les 30-40 dernières années, c'est qu'on est passé d'une construction collaborative à en fait quelque chose qui s'est extrêmement individualisé. Et je l'ai représenté alors le côté noir de la force de ce que je viens de dire là. Voilà, c'est ça. C'est que tout va tourner autour de l'individu en disant si je fais de la science et si je suis reconnu, je vais pouvoir en plus définir qu'est-ce que c'est que faire de la science excellente. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'excellence en recherche ? Parce que je vais être dans les comités permettant de définir ce qu'est l'excellence en recherche. Ça va me permettre de me qualifier comme chercheur excellent. Chercheur expert et le meilleur expert dans mon domaine. J'essaierai de faire aucune attaque ad hominem et de faire de lien avec... Et donc, ça transforme ça en une forme de pouvoir qui, en fait, est transformée en type d'attractivité. Et l'attractivité, notoriété, en fait, peut et se transforme soit en pouvoir, soit en un avantage financier ou un avantage de nature. Et ce cercle-là auto-amplificateur autour de l'individu, il est d'autant plus rapide que je vais être de moins en moins intègre. C'est-à-dire que plus je publie vite, plus on m'incite à publier vite, pour ne pas être scoopé, à publier sur ce qui est à la mode, etc., plus je vais passer un certain nombre de lignes rouges qui sont que je vais faire de la recherche de moins en moins honnête. Alors, ça m'oblige un peu, alors je reviens à définir un peu ces trois points dont je parlais au départ, c'est l'intégrité scientifique, ça a à voir avec moi en tant que scientifique, c'est-à-dire comment je fais de la recherche honnête. Et je le définirai après, ce que j'appelle en fait recherche honnête. Et l'éthique, c'est mon comportement vis-à-vis en fait des gens qui m'entourent et de ceux qui m'entourent. C'est en tant que directeur de thèse, ou en tant que directeur de laboratoire, la pression ou pas que je mets sur mon laboratoire. Et la déontologie, c'est mon rapport avec la société. Est-ce que je vais faire l'apologie du racisme ou pas, par exemple ? Est-ce que je vais mettre en danger une communauté en les traitant d'islamo-gauchistes et en les mettant en fait et en les exposant à la vindicte de groupuscules d'extrême droite ou autre. Et entre en fait ce côté qui l'intégrité scientifique et l'éthique, je vais devoir gérer des tensions entre ma morale ou ce que je considère faire le être honnête dans mon travail et ne pas faire le mal vis-à-vis des autres. Entre déontologie et éthique, je vais avoir une tension entre le nous, c'est-à-dire mon environnement de laboratoire, et la société, et c'est là où va apparaître ce concept de responsabilité sociale. Et entre déontologie et intégrité scientifique, c'est la tension entre moi et la société. Alors, qu'est-ce que j'appelle intégrité scientifique ? Je ne parlerai pas du tout ni d'éthique, pas nécessairement, ni d'éthique, ni de déontologie. Dans les sciences expérimentales, mais en particulier en biologie, il y a trois points. C'est-à-dire que quand je publie quelque chose, si je suis honnête, ce que je publie doit être reproductible. C'est-à-dire que quelqu'un extérieur peut être capable de, à partir des données de l'article et de la description du matériel et méthode, d'être capable de reproduire ce qu'il y a dans le papier. Encore mieux, je dois être réplicable, c'est-à-dire je dois avoir la capacité à complètement refaire le travail qui a été fait. Et idéalement, je dois être rationnel, c'est-à-dire je dois être capable de décrypter d'où est parti le papier, comment il reconnaît en fait le travail des autres et comment en fait il pose des questions à partir d'un état actuel de la connaissance ou ce qu'il considère ou ce que les auteurs considèrent comme l'état actuel de la connaissance. Faire ce travail de honnête en termes d'intégrité scientifique, ça demande du temps long. Ça demande aussi que je ne sois pas poussé dans mon évaluation à avoir des critères quantitatifs qui est à faire le plus grand nombre de papiers, de publier avant les autres, de publier en fait des choses qui vont être valorisables. Or, ce que fait l'ANR depuis 2007, ce que font l'évaluation à travers l'HCERS, c'est me pousser, alors quand je dis me, c'est les chercheurs, c'est faire en sorte que on aille le plus vite possible. Et donc, on est tenté de falsifier, de fabriquer les données. On a une sorte de tentation à rentrer dans des inconduites scientifiques. Et ce qu'a fait la pandémie avec le Covid, c'est d'amplifier ce mouvement-là. Comme on a compressé le temps, on a encore fait encore plus, on a eu ces injonctions encore plus fortes, ce qui a eu pour conséquence, en fait, d'augmenter les inconduites scientifiques, les comportements non éthiques et, en fait, des comportements non déontologiques. Ce que je mettais là aussi, c'est qu'on a une responsabilité aussi des institutions qui donnent aux chercheurs, que ce soit INSERM, CNRS, université, des injonctions paradoxales, parce qu'on nous dit, il faut que vous soyez le meilleur en termes de compétition par rapport au niveau mondial, et à même, donc, aller vite, soyez à la limite, en fait, du dopage, etc. Et en même temps, faites une recherche honnête et intègre. Alors maintenant, de mon point de vue, la pandémie n'excuse pas les inconduites scientifiques. La pandémie et l'urgence n'excusent pas en fait le fait de dire je peux avoir des comportements non éthiques. Au contraire, en fait, elle devrait montrer et nous faire réfléchir sur le fait que si ces normes d'intégrité scientifique et d'éthique et de déontologie sont pas au contraire encore plus poussées, si l'université, le CNRS, l'INSERM, les institutions de manière générale ne construisent pas dans les laboratoires une atmosphère d'intégrité scientifique pour faire le travail, la question qui était posée au tout début, avant le début du séminaire, et qui était de dire est-ce qu'on est optimiste ou pessimiste pour l'avenir, si on continue dans la même voie où on est en train de saper totalement en fait le fait même de faire de la science. Et donc je serais optimiste si en fait il y a une prise de conscience des institutions de l'université et du ministère de manière générale, pour voir que on ne peut pas en fait baser la recherche simplement sur sa capacité à fabriquer des produits et des produits qui sont vendables. Plus on va pousser le curseur dans ce cadre-là, la recherche va et la science va aller au moins au niveau national dans le milieu. Et alors l'exemple que donnait en fait Gérard au niveau des vaccins et du coronavirus, je rajouterai deux choses. C'est un, les pandémies et les épidémies sont en parallèle, c'est-à-dire quand elles nous frappent à nous, elles frappent aussi en fait les animaux, c'est-à-dire que zoonoses et pandémies au niveau humain, c'est la même chose, on est dans ce qu'on appelle en fait une santé globale, et quand on agit en fait quand on a des maladies ou des interactions pathologiques entre guillemets avec les animaux, ça a des effets en fait sur nous. Donc le coronavirus, c'est même dès les années 80 que ça a été étudié, parce que une classe de coronavirus, il y a quatre familles de coronavirus, alpha, beta, gamma, delta. Les delta coronavirus sont ceux qui donnent les plus grosses zoonoses au niveau des élevages porcins, par exemple, ou des élevages bovins. Et ces élevages porcins, ça donne des diarrhées sanguinolentes et ça fait mourir, en fait, les porcs. Et l'INRA travaillait depuis très longtemps sur ces problèmes de coronavirus. Hubert Lode, dans les années 90, était un des chercheurs INRA qui était un des grands spécialistes de coronavirus. L'INRA a arrêté son travail en disant, voilà, qu'est-ce qui a été à la mode dans les années 97, on n'était pas tout à fait encore sur les appels à projets, mais à l'INRA, qui est plus un épique, ils ont dit c'est la maladie à prion. Donc ils ont obligé Hubert Lode à arrêter son travail sur les coronavirus et à le commencer et à travailler, à shifter toute son équipe sur les maladies à prion. Or, il y avait une réflexion qui avait donnée, je ne sais plus qui, quand on parlait en fait un peu à bâton rompu, Ce qui est le plus difficile, en fait, c'est de prédire l'avenir. Et c'est de prédire les crises qui viennent. Et comme à ce qui nous concerne, notre système immunologique ne prédit pas les antigènes qui vont arriver, mais il génère une diversité suffisante pour que, face à la crise, il puisse y répondre. Or, la problématique, en fait, qui s'est passée dans les 20 dernières années, c'est d'individualiser complètement la recherche et de faire passer le travail de recherche et le travail de science d'un travail collectif vers un travail de plus en plus individuel, et par les appels à projets, de normer la recherche de telle sorte qu'elle de diminuer totalement sa diversité. Ce qui fait que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une politique qui a été menée à tambour battant depuis 2007, donc pratiquement une vingtaine, enfin presque une vingtaine d'années, parce que 2007 a été préparé à partir de 2002-2003. Mais même avant, c'est la même chose au niveau du système de santé, c'est que on ne pourra pas répondre en fait réellement à des crises si on n'a pas préparé, si on s'est pas préparé par en maintenant une forme de diversité à notre système de recherche et à notre système de santé. Je vais arrêter là sur mon intervention. Je ne sais pas si j'ai été long ou pas.
On est un peu au-delà du temps, mais je pense que comme c'était intéressant, ça valait vraiment la peine. C'est bien complémentaire aussi de ce que Gérard nous a donné. Et je vais laisser la parole à Marie-Annick pour donner une dernière série d'éléments d'information. Et après, donc... Il y a la possibilité d'un débat. Donc, vous pouvez mettre déjà un certain nombre de choses dans le chat. Hein, si vous faites discussion en bas de l'écran, s'affiche un petit panel de discussion où tout en bas, vous pouvez écrire. Vous pouvez écrire à tout le monde, ça, c'était secret. Et puis, un peu plus tard, on verra ensemble comment on peut lever la main. Donc, là, vous pouvez déjà commencer à poser vos questions dans le chat ou vos réactions, ou elles seront prises en compte tout à l'heure. Afin que ça ne vous sorte pas de l'esprit. Marie-Annick.
Alors moi, je vais aborder deux points qui ne sont éloignés qu'en apparence. Le premier va être en fait un détail de ce qu'a dit Gérard tout à l'heure, qui va concerner les tests PCR simplement. Mais je vous préviens que je ne suis pas biologiste, donc je ne ferai que vous transmettre une discussion que j'ai eue avec un camarade et ami qui s'appelle Michel Volovitch, qui est professeur émérite à l'ENS et qui a son labo toujours au Collège de France. Et donc, on avait eu cette discussion sur les manques de tests PCR au printemps dernier. Et il m'a fait un répertoire de tout ce qui avait manqué, tout ce qui avait été mis à la poubelle, tout ce qui avait manqué pour pratiquer à grande échelle en France, dès le début de l'épidémie, ces tests PCR. Alors, tout d'abord, il dit qu'il manquait deux enzymes que, auparavant, il purifiait lui-même, mais que quand la demande a augmenté dans les années 80-90, il est devenu plus rentable de le commercialiser, et donc c'était plus commode pour lui d'acheter ses enzymes. Puis la valeur ajoutée a rapidement diminué et la production s'est délocalisée, et de ce fait, il n'y a plus aucun producteur de reverse transcriptase et de polymérase thermostable en France. Ensuite, il a manqué cruellement des kits qui ont été en fait produits industriellement pour que les différents ingrédients qui servaient à faire ces tests, donc ceux avec des produits chimiques peu chers et d'autres avec les enzymes en question, ont été vendus sous forme de mélange tout fait où il n'y a plus qu'à ajouter l'échantillon de nasopharynx, par exemple, ou de fond de gorge, selon ce qu'on a envie de tester. Comme ça, c'est devenu très commode d'avoir ces kits et beaucoup plus rapide. C'est aussi, dit-il, nettement plus cher et parfois de façon assez scandaleuse. Et bien souvent, on ne sait plus les ingrédients qui sont mis dans ces kits à cause du secret industriel des firmes qui les produisent. Et donc, on a manqué cruellement de kits d'extraction d'ARN. Et enfin, de façon, surtout même, dit-il, certaines machines très sophistiquées pour faire des PCR n'acceptent que des kits dédiés à la machine. Donc, plus ces machines sont performantes, plus elles constituent un système fermé dans lequel on n'a plus aucun choix sur les réactifs à utiliser. Et si le fournisseur, comme par hasard, est chinois, il y a un manque de produits de base du kit et fait défaut, et la belle machine est bloquée. Et donc, on a manqué des kits dédiés aux machines à PCR. Ensuite, il faut des amorces. Alors, un synthétiseur d'oligonucléotides qui sera fabriqué par voie chimique, les amorces, pour assurer le recopiage de la partie de l'ARN viral qui nous intéresse. Et donc, me dit toujours Michel Volovitch, dans les années 90, le département de biologie de l'ENS était assez riche, s'est équipé d'un premier synthétiseur, puis d'un deuxième plus perfectionné. Et la technique s'est répandue, les entreprises ont proposé ces synthèses pour pas tellement plus cher, et comme le poste d'ingénieur pour s'occuper de la machine a été supprimé, c'était vraiment rentable de le commander à l'extérieur, et on a remisé le synthétiseur dans un fond de cave où il est parti à la casse depuis. Depuis donc, on commande les amorces oligo à l'une des deux ou trois entreprises françaises qui le proposaient. Puis, il y a eu des concentrations et maintenant, il passe sa commande avant 16 heures et le lendemain, en fin de matinée, il reçoit par DHL ses oligonucléotides. Et il me dit, mais pourquoi DHL ? Mais oui, parce que ça vient par avion, parce que le synthétiseur est près de Munich et qu'il n'y a plus aucun fournisseur d'amorces en France. Il en reste un ou deux en Belgique, en Allemagne, une demi-douzaine aux USA. Évidemment, au printemps dernier, on a bien sûr manqué d'amorces pour les réactions de PCR. Et pour finir, il me dit, il n'est pas sûr de cette chose, mais qu'aujourd'hui, on doit manquer probablement aussi de séquenceurs pour identifier les variants. Il y a donc bien des moyens matériels et des savoir-faire et des métiers et des statuts d'ingénieurs de recherche, par exemple, qui ont été jugés inutiles puisqu'on pouvait se les procurer facilement à prix modique ailleurs. Et pour conclure sur ce problème des PCR, ce n'est pas seulement le manque de kits, le manque d'enzymes, le manque d'amorces et le manque de machines PCR, c'est qu'on n'y a pas réfléchi à l'avance, ça c'est un petit peu ce que disait Gérard tout à l'heure, et que même en se procurant à toute vitesse ces choses, dès que les Chinois sont d'accord ou ont la possibilité de les livrer, après la mise en place et la formation des gens qui vont s'en servir, le plus difficile peut-être est de coordonner les différents segments de l'opération. Comme on l'a vu avec les tests quand ils ont été en nombre suffisant, du moins dit-elle, mais fait dans un tel désordre que souvent c'était du pur gaspillage. Mais, conclut-il, pour cette planification intelligente de dernière minute, il y a McKinsey, ou l'un des 7 cabinets de conseil auprès desquels le ministère a passé des commandes, donc on doit pouvoir ne plus avoir de soucis. Voilà, ça c'était pour la première partie de ce que j'ai à vous dire, qui est en fait qui me vient de ce collègue et ami Michel Volovitch. Mais je pense, quant à moi, maintenant, je parle plus en mon nom personnel, qu'on peut difficilement parler de l'état de la recherche sans parler de l'état de l'université. Comme la plupart des enseignants titulaires sont, au moins pour la moitié de leur service, enseignants-chercheurs, ce qui s'est passé à l'université pendant cette première année de pandémie, ce que le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, terme ajouté fort récemment à son intitulé, a fait passer en force en profitant des confinements. Je pense que cette pandémie va affecter et affectera durablement la recherche. Alors, pour le Covid et l'université et les enseignants-chercheurs, on a eu une première vague, un premier confinement pendant lequel on a demandé aux enseignants et aux enseignants-chercheurs d'assurer une continuité pédagogique. Elle n'a absolument pas été financée, elle a été accompagnée de consignes anxiogènes et on a fermé les labos. Comme les postes temporaires de recherche qui font en bonne partie marché de la recherche à l'université, donc les doctorants, les ATER qui sont des postes temporaires, les postdocs ont été empêchés de se rendre dans leur laboratoire, on leur a promis une prolongation de 3 à 6 mois de leur contrat de recherche. Et ça a été annoncé tout à fait officiellement devant à l'Assemblée nationale, au Sénat, par les divers ministres qui se sont relayés pour dire « pas de problème, on va prolonger, on va financer tout ça ». Elle a été très, très peu et très mal, voire pas financée, et souvent selon le bon plaisir des directions de l'université qui ont financé les écoles doctorales qui les arrangeaient. Ça, c'est pour la recherche. Et les contrats. Finalement, la diplomation des étudiants a pris le pas sur les contenus d'enseignement au bout d'un moment de ce premier confinement, les examens ont été maintenus à tout prix, et notamment au prix de graves entorses à la liberté et à la sécurité, puisqu'il a été parfois institué une télésurveillance qui a été confié à des prestataires privés. Ça, c'était en mai. Du côté des enseignants-chercheurs, on a pu voir d'énormes différences entre les universités de petite taille et les mastodontes fusionnés quant à ce qui leur a été proposé comme aide à ces cours à distance, entre sciences dures et en sciences humaines et sociales. Et on a vu aussi de grandes différences dans la poursuite des recherches et dans les publications. Notamment, on découvre aujourd'hui que le nombre d'articles scientifiques proposés par des femmes pour publication a été en forte baisse quand celui des chercheurs hommes a augmenté. Ça, c'était quand la charge mentale de l'école à la maison a été principalement apportée sur les femmes, bien sûr. Comme disent les Anglais, nous sommes tous dans la même tempête, mais pas dans le même bateau. Hein ? Au moment de la deuxième vague, le problème du deuxième confinement aussi, le problème des étudiants confinés, dont Gérard aussi a parlé tout à l'heure, est apparu au grand jour. Des problèmes de loyer, des problèmes de la solitude dans les crousses, de la perte des petits boulots qui a engendré de la faim des distributions alimentaires. Et depuis fin décembre, début janvier, pour les enseignants et pour les étudiants, des protocoles de reprise en présence qui ont changé tous les 10 jours, des annonces qui n'ont pas été suivies des faits et ont posé énormément sur le moral des étudiants. Notamment, on parle depuis un mois et demi de chèques psy qui ne sont toujours pas arrivés dans les CROUS, par exemple, alors que les étudiants dépriment totalement. Depuis début février, la ministre dit que tout le monde va être en présentiel le 1er mars, et c'est bien sûr faux. On dit aux chercheurs qu'ils auront en février une prime de Covid et de matériel de 1 000 euros. Évidemment, ils n'ont rien vu venir. Alors, pour septembre 2021, est-ce que la reprise pourrait être normale ? Rien n'est moins sûr. Il faudra évidemment assurer l'accueil des nouveaux bacheliers qui sont eux aussi très diversement affectés après 18 mois de cours perturbés, sans moyens supplémentaires. Pour l'université, il y a en poste, en soutien, de même pour les licences. Et avec la question qu'on posait tout à l'heure, sur l'optimisme ou pas, est-ce qu'on maintient le niveau des diplômes et on perd en race campagne la moitié des étudiants, ou est-ce qu'on baisse l'exigence pédagogique et c'est le diplôme qui sera dévalorisé ? Et l'enjeu de la qualification, qui était jusque-là pour les étudiants placés en licence, va se déplacer en master, où les conditions d'accès, bien sûr, vont être durcies. Alors, pour parler aussi ce que le ministère a profité de la pandémie pour faire passer, aujourd'hui, le 5 mars, il y a juste un an, une manifestation très massive d'enseignants-chercheurs s'est levée contre la loi de programmation pour la recherche qui était annoncée par le ministère. Contrairement aux promesses du président de la République qui disait que pendant la pandémie, on ne toucherait à rien, on n'avancerait à rien sur les lois, cette loi était mise en pause de mars à juin, mais elle est devenue la loi pour la recherche et elle est passée en force dès septembre, en procédure accélérée, avec des amendements plus que douteux proposés par le Sénat et en commission mixte paritaire, d'ailleurs, entre le Sénat et l'Assemblée, qui ont accentué la pénalisation des mobilisations étudiantes. Ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel, mais c'est revenu depuis peu sous forme de délit d'entrave dans la loi sur les séparatismes, ainsi qu'un certain nombre d'amendements qui sont proposés, qui sont vraiment dangereux pour la liberté universitaire, avec des enquêtes administratives, des serments à la Constitution et au drapeau, enfin des choses, évidemment l'interdiction du voile qui est revenue par le biais d'amendements qui étaient proposés. Le ministère a profité aussi de cette pandémie pour faire nommer à la présidence du HCERS, qui est le Haut Conseil à l'évaluation de la recherche et l'enseignement supérieur, un organisme d'évaluation et partant de financement, bien sûr. Il a fait nommer le président de la République, parce que c'est le président de la République qui nomme le président de ce HCERS, Thierry Coulon, qui était son conseiller recherche, donc qui était à la fois juge et parti, puisque c'est lui qui a été qui a fait les propositions de nomination. Et depuis, d'ailleurs, depuis sa nomination à la présidence, divers conflits d'intérêts avec La République en marche, il faut bien le dire, hein, ont été soulevés et qui ne sont pas encore résolus, bien sûr. On peut aussi parler de ce que la pandémie a laissé dire au ministère de l'Enseignement supérieur, des chiffres absolument insincères sur la loi de programmation, sur la revalorisation des enseignants-chercheurs. Le ministère aussi a profité de ce temps d'occupation à plein temps des enseignants-chercheurs à préparer des cours en Zoom et de l'hybride, du semi-présentiel, du comodal, etc., pour signer des revalorisations de salaire avec quelques syndicats seulement, qui valaient approbation de cette loi qui venait de passer. Et ces seuls syndicats vont être autorisés au suivi de la loi. C'est-à-dire que les syndicats, la majorité des syndicats qui ne sont pas signataires de ce protocole avec le ministère seront écartés du suivi de la loi. Voilà. Et vous avez sûrement...
Après, il faudrait tirer la conclusion parce qu'on va...
Oui, je finis mais avec ce qui a déjà été abordé tout à l'heure par Gérard, à savoir, et par Jacques aussi d'ailleurs, pour faire face à cette incurie du ministère dans sa gestion de la pandémie à l'université, on a commencé, quand la souffrance des étudiants a commencé à se voir, les suicides ont commencé à donner lieu à des enquêtes, on a commencé à entendre une vilaine musique qui sent pas bon du tout. Et vous en avez, on en a parlé tout à l'heure, à savoir la dénonciation de courants islamo-gauchistes. Et je voudrais, pour conclure, vous lire le vainqueur du jour, à savoir un ancien ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je nommerai Luc Ferry, qui a dit dans Le Figaro d'hier « L'islamo-gauchisme ne cesse de gagner du terrain en s'alliant à l'écoféminisme et au mouvement décolonial pour former cette fameuse cancel culture woke qui met plus en place à l'université la chape de plomb d'une véritable police de la pensée. » Donc, pour finir son discours, il lui manquait, pour gagner le bingo anti-universitaire à la mode, il manquait intersectionnel et pour cocher toutes les cases. Mais je pense quand même que c'est cette histoire d'islamo-gauchisme et autres, c'est une façon de s'attaquer à une université qui est un lieu de production de pensée critique et un lieu de promotion sociale et de... Il s'agit, je pense, d'attaquer méthodiquement un service public de recherche et de transmission des connaissances. Voilà. À vous.
Merci Marie-Annick. Je propose que, Michel, tu nous dises ce qu'il y a dans la discussion et qui peut alimenter le débat. Et puis, alors, les prises de parole, je vous le rappelle, vous avez en bas « Participants, discussions ». Surtout ne faites rien sur écran partagé. Et mes discussions, ou bien un autre mot, je ne sais pas, ça dépend des versions, peuvent vous permettre d'avoir une fenêtre qui s'ouvre quelque part sur votre écran. Et en bas, il y a « Saisir le message ». Une fois que vous avez écrit votre question, votre remarque, vous l'envoyez. Ça, c'est pour… Et sinon, si vous faites cette fois-ci cliquer sur « Participants », vous avez la liste des 33 participants. Et en bas, vous avez aussi la possibilité de lever la main en cliquant. Et Annie va regarder qui lève la main et va s'adresser la petite liste de ceux qui prennent la parole. Michel, qu'est-ce que tu as vu dans le chat? Et après, tout de suite, la parole au débat.
Oui, alors il y a des questions sur des niveaux assez différents les uns des autres, mais il me semble qu'il y a quand même deux grands niveaux. Il y a une question un petit peu technique qui a été posée à Jacques, à laquelle Jacques a répondu, mais je dois dire que personnellement, je n'ai pas bien compris la réponse ni la question, donc je voulais quand même y revenir un petit peu, qui est la conception du transfert technologique suppose-t-elle nécessairement de l'intelligence artificielle dans la modélisation? Question très technique. Et puis, donc, il y a une réponse que la modélisation en physique, c'est les lois de Newton, pas besoin d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu là-dessus, puis après on abordera le reste?
Il y a la question de
Jacques. J'ai répondu très vite, en fait. J'ai rajouté en fait un papier que j'ai fait sur l'intelligence artificielle, parce que c'est toujours un peu pareil. Il faudrait passer du temps pour définir qu'est-ce qu'on met derrière intelligence artificielle. Moi, ce que je voulais dire simplement, c'est que, et je vais le faire par analogie, par exemple, avec la physique, c'est que les trois étapes que je décrivais, l'étape descriptive en physique, c'est décrire la chute des corps aussi précisément qu'on veut. Mais c'est Galilée, Kepler, et puis avant, hein, en fait. Modéliser, c'est Newton qui trouve une loi qui permet en fait de calculer en fait ce qui va se passer quand on fait tomber un corps. Et la troisième étape, qui est la théorie, c'est la théorie de la relativité générale d'Einstein, c'est-à-dire en fait développer des axiomes de départ, enfin des hypothèses, et en utilisant la raison, hein, c'est-à-dire l'implication, etc., être capable de construire une réalité virtuelle qui représente ce qu'on observe, la réalité sensible. Donc c'est ça dans les trois étapes. Et la biologie suit en gros ces trois étapes, mais décalée par rapport à la physique. Donc, on a commencé par avoir une étape de description, on est passé dans une étape de modélisation en essayant de dire, ben voilà, j'ai une cellule, qu'est-ce qui va se passer? Je sais comment elle s'est comportée du temps zéro au temps T, qu'est-ce qui va se passer après, quoi. Voilà. Donc, c'est tous les problèmes, en fait, quantitatifs de différenciation cellulaire, de construction d'organes, etc. C'est-à-dire, comment je modélise, en fait, mon système. Et le troisième niveau, ce serait de comprendre le vivant, pour être capable en fait de réaliser une théorie du vivant. Ça serait, je suis capable d'avoir un certain nombre d'axiomes ou d'hypothèses permettant de construire un genre SimCity qui correspond en fait à ce que j'observe réellement. Voilà, c'était ça. Alors l'intelligence artificielle, c'est à la fois un outil. C'est-à-dire, on a tendance à confondre, à mettre dans l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui a été, qui s'est développé dans 10 réunions qui se sont passées entre 1943 et 1953, qu'on appelle les réunions de Massy, parce qu'elles étaient, il y avait un mécène qui s'appelait Jonathan Massy. Et il y avait deux axes. Un, c'était, je vais essayer de comprendre comment et réfléchir comment l'homme, enfin, qu'est-ce que c'est que la pensée humaine? Bon. Et ça a débouché sur toute une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences cognitivistes. Et de l'autre côté, c'était, je voudrais faire en fait des systèmes, donc maintenant on appellerait ça des algorithmes en fait, qui soient capables en fait de simuler la pensée humaine et de faire ce que la pensée humaine met à travers en fait un dispositif. Et c'est ça qui est vraiment l'intelligence artificielle. Et derrière ça, il y a un certain nombre d'outils mathématiques qui sont majoritairement tout ce qui permet de classifier deux classes d'objets entre eux. C'est-à-dire, globalement, pour faire très simple, l'apprentissage, ça consiste, si on veut, à différencier des chaises de fauteuils. Et donc, ça consiste à apprendre sur un ensemble de chaises et de fauteuils. Une fois que j'ai appris, on me montre quelque chose, sauf que si on montre un tabouret, je vais être embêté, mais on montre quelque chose en fait au logiciel et il va pouvoir dire ben, ça c'est une chaise ou ça c'est un fauteuil. Il ne va pas nécessairement vous expliquer pourquoi c'est une chaise ou c'est un fauteuil. C'est ce qu'on appelle la non-explicabilité en intelligence artificielle. Mais derrière le mot, il y a quelque chose, on le présente toujours de manière mystérieuse, alors que c'est plutôt relativement simple ce qui est lié à quoi.
Là, on va en rester là. Je pense de toute façon que tu avais fini. Francine, est-ce que tu pourrais nous préciser ce que tu avais écrit, ce que tu as toujours écrit d'ailleurs, dans le chat? Et puis, donc après ça, il y a deux autres questions, un nouveau message.
Juste pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, je suis retraitée, bien sûr, mais j'étais maître de conférence de biophysique à l'Université de Paris 6, et elle, en plus particulièrement à la Pitié-Salpêtrière. Donc, je ne suis pas une fondamentaliste, mais quand même, j'ai l'expérience d'un labo de recherche, je sais ce que c'est de chercher des crédits privés, enfin bon, etc., etc. La seule chose, c'est que la France consacre de l'argent à de la recherche fondamentale, mais pas pour l'université, c'est ça ce que je veux dire. Essentiellement, l'aéronautique, qui sont des trucs très polluants, et en particulier toutes les fusées, tout ce qui démarre en Guyane, tous les trucs, ça coûte une fortune. Tout le nucléaire, bon, vous savez que c'est vraiment marotte, mais civil et militaire, mais l'EPR, la recherche sur l'EPR, c'est une fortune qui est complètement gâchée. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un travail pour essayer de faire revenir cet argent qui est absolument gaspillé? Bon, on peut peut-être discuter sur les fusées, j'en sais rien, hein, mais sur l'EPR, c'est sûr que c'est un gouffre financier qui n'a rien apporté, pour le faire revenir vers une recherche fondamentale et vers l'université. Et ça ne part pas vers le privé. Ce n'est pas une recherche privée du tout. Donc, c'était moi pour situer deux recherches, deux fonds, des fonds publics qui sont affectés à d'autres choses que la recherche universitaire ou la recherche fondamentale. Voilà, c'était ma question.
Ce que reprend un petit peu une question suivante qui dit est-ce qu'il ne faudrait pas demander des états généraux de la recherche?
Tout à fait.
Alors, il y a aussi une ou deux autres questions et je propose après que Gérard et Marie-Annick répondent.
Il y avait une question de Laurent qui peut peut-être la formuler. Alain Esmery, Denis Richard, il y avait une demande de parole de Gérard et de Marie-Annick.
Donc, si on reprend l'ordre.
Laurent qui avait posé la question: comment analyser la déception liée à l'échec d'un vaccin français? Comment analyser l'échec de l'Institut Pasteur quand il est présenté comme une opposition de personnes entre Frédéric Tanguy et Nicolas Estrieu? Je vois, Laurent, tu veux... Là, il y avait Alain.
Alors, Alain.
Oui. Je vais mettre la caméra. Oui, bonjour et merci. Je suis maître en rien, en tout cas pas du tout dans ces disciplines. Et merci pour l'éclairage et le fait que, ça, en tout cas, ça m'a été très abordable. Je m'enrichis. La question, sortir de vos interventions, c'est comment sortir de... est-ce que c'est une impasse? Peut-être pas une impasse, mais de l'orientation actuelle de la recherche et de ses objectifs. La question que je posais, c'est: est-ce qu'il n'y a pas la conjonction de la doxa libérale des politiques qui sont censées orienter et là je pense que c'est tout parti confondu, hein, de la haute administration qui est formée à cet effet et qui en général c'est quand même elle qui gouverne en arrière-plan, mais aussi peut-être de la tentation de la tentation du succès, la tentation de la célébrité pour une partie de la recherche prétendue moderne et qui s'inscrirait donc dans cette logique court-termiste parce que tant Gérard que Jacques sont des chercheurs émérites mais qui sont d'une génération formé en tout cas dans une autre logique, dans un autre contexte. Donc là où je suis peut-être inquiet, c'est est-ce que aujourd'hui dans la formation, on fait miroiter aux futurs chercheurs, aux étudiants chercheurs, aux aspirants chercheurs, le fait qu'il faut aussi rechercher la notoriété, rechercher la célébrité pour pouvoir avoir les moyens, seule condition pour pouvoir ensuite aboutir dans des recherches. Donc, et je venais poser la question, est-ce que autour de la faillite constatée dans la réponse à la crise de la Covid-19, est-ce qu'il n'y aurait pas le besoin de convoquer des états généraux de la recherche ou en tout cas d'y travailler, c'est-à-dire à travers tous les différents acteurs qui participent des décisions.
Merci Alain, il y avait une question de... C'est pour équilibrer un peu entre l'auditoire et les intervenants. Une question donc de Denis, et après ça donc on laissera à nouveau la parole aux intervenants pour essayer de répondre à toutes ces questions. Denis.
Oui, ma question prolonge un petit peu, d'une certaine façon, celle que vient de poser Alain. On entend les épidémiologues dire que de nombreuses zoonoses sont prévisibles dans les années à venir et que le Covid n'est que la préfiguration de ça, en quelque sorte. Et alors, compte tenu du manque de moyens et que vous venez de dénoncer et des difficultés que vous dites rencontrer, moi je me demande comment les chercheurs peuvent-ils ne pas désespérer et nous avec, puisque si les chercheurs ne peuvent pas faire leur boulot, tout le monde en pâtira. Et à propos des chercheurs qui désespèrent, on entend dire aussi qu'un certain nombre, paraît-il, vont voir ailleurs. Alors est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus ?
Dans l'ordre qu'il vous convient, Marie-Annick, Jacques et Gérard, devant ce flot de questions et de suggestions aussi, d'ailleurs.
Je veux bien.
Moi, je veux bien répondre aussi à Francine, par exemple. Je suis bien d'accord que l'aéronautique et le nucléaire prennent beaucoup de place. On n'a pas du tout parlé jusqu'ici du crédit impôt recherche, qui est un crédit qui engloutit des milliards, hein, avec un mode de fonctionnement et de contrôle, surtout du Parlement, absolument inexistant. Et là, il y a de l'argent aussi à prendre pour la recherche. Et pour répondre un peu en partie à Alain, et pour prendre un exemple aussi, hier sont tombés les résultats pour les ANR, c'est-à-dire les résultats des appels à projets. Et c'était le désespoir dans les chaumières absolu, quoi. C'est-à-dire que ces appels à projets ne réussissent qu'entre 10 et 15% des cas. Donc, des jeunes chercheurs qui font des projets de recherche qui leur prennent un temps fou et qui vont à la poubelle directement ou à la prochaine ressortie, amélioration, avec des... C'est une loterie, d'une certaine façon, c'est un peu une loterie. Quoi. Voilà.
Gérard, s'il te plaît.
Bon, alors, plusieurs choses. Je vais commencer par la question la plus simple, est-ce qu'il faut des états généraux de la recherche ? La réponse est oui, il faut des états généraux de la recherche. Et d'ores et déjà, la section 22 du Conseil national des universités a publié aujourd'hui une pétition « Nous sommes la recherche », ils appellent aux états généraux de la recherche, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, avec des financements insuffisants, des attaques contre notre liberté de recherche. Il n'y a pas que l'islamo-gauchisme, il y a effectivement la volonté de dans les secteurs de la biologie de nous orienter vers le privé, vers la coopération. Ça monte très loin, hein, faut être très clair. Alors d'abord, soyons clairs, c'est pas tous les partis, contrairement à ce que j'ai entendu. Il y a heureusement un certain nombre de partis petits ou moyens à l'extrême-gauche et à gauche qui ne sont pas partisans d'une recherche au profit des groupes privés. Mais la valorisation de la recherche, ça remonte à loin, ça remonte à Allègre, ça remonte au projet valorisation recherche, ça remonte ensuite au fameux crédit impôt recherche, dont tu as très bien dit que l'argent a été donné au privé pour qu'il fasse des partenariats et pour financer de la recherche dans le privé. Résultat, ça n'a servi à strictement à rien, comme dit lui-même la Cour des comptes. Il faut les états généraux de la recherche aussi, parce que la structure ne peut pas continuer comme ça. Moi, d'un certain point de vue, ça, on pourrait dire que ça m'arrange d'être émérite et d'avoir des petites mains dans le labo qui font les manips. Mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne véritablement. C'est la façon d'utiliser les jeunes chercheurs comme des techniciens. Et ensuite, une fois qu'ils ont passé à un certain niveau, ça ne fait que s'accentuer. Les projets de carrière qui sont mis en place visent à faire que les carrières de chercheurs statutaires et titulaires soient réservées aux maîtres de recherche, qui ont fait leurs preuves à l'américaine. Et donc, le reste, c'est des petites mains qui, en plus, quand ils auront une formation très, très spécialisée, sont priés de dégager s'ils ne sont pas recrutés. Et je vous garantis qu'avec une recherche sur telle et telle modification d'acides aminés, sur telle et telle chaîne d'une protéine immunitaire, vous avez très peu de chances de trouver du boulot dans l'immédiat. Donc, on fabrique des gens dont une partie est vouée au chômage, dont une partie est vouée à la précarité, dont tout le parti est dans les grandes difficultés. Alors, évidemment, on tombe aussi là sur le projet de l'ANR. Nous réclamons depuis des années que la France consacre 2 à 3 % de son produit national brut à la recherche fondamentale pour revenir à la situation de financement que j'ai connue au départ. Je vous rappelle qu'au départ, quand je suis rentré au CNRS, sous De Gaulle et dans le prolongement de la Libération, le CNRS finançait la quasi-totalité de mes financements, de mes recherches. J'ai jamais eu à rédiger des projets de recherche tous les 6 mois. Là, les jeunes, quand vous êtes rédigés des projets de recherche tous les 6 mois, pour un taux d'échec qui est absolument considérable. Et en plus, ça se fait alors qu'au départ, l'ANR, l'Agence nationale de recherche, ne prévoyait pas ce qu'on appelle les projets blancs, c'est-à-dire des projets qui ne sont pas dans l'intérieur des appels finalisés. Car les projets de l'ANR, c'est essentiellement des appels finalisés par les technocrates et par un certain nombre de mandarins. Donc ça ne peut pas déboutir. Alors maintenant, deuxième point de vue, l'argent de l'EPR, attention, c'est pas qu'un argent de recherche fondamentale, c'est en grande partie aussi un argent de construction avec des dépassements considérables de coûts. Bon, donc ça, c'est un autre problème, c'est de savoir si la construction du nucléaire, etc., engloutit pas de l'argent dans un système un peu sans issue, et l'EPR, il y a un autre projet de recherche fondamentale dont on peut discuter, que certains discutent, qui est ITER, le réacteur de fusion thermonucléaire, où certains disent en physique, mais d'autres disent le contraire, que c'est bien joli de vouloir mettre le soleil en bouteille, mais personne ne sait vraiment comment construire la bouteille. Bon, d'autres disent au contraire, ça marchera. Bon, mais il y a effectivement, si on passait à 2 à 3 % déjà du produit national brut, comme c'était le cas à une certaine période, si on revenait à ça, déjà ça ferait une inondation importante, et si on abandonne l'idée de financer la recherche sur projet. Alors maintenant, sur les vaccins différents. Premièrement, oui, les vaccins sont un bien commun de l'humanité, et oui, les différents vaccins doivent être mis en commun. Il n'y aura pas, Falcao le disait, il va falloir immuniser, il faut rendre compte que ce que c'est une vraie pandémie, il va falloir immuniser à peu près 6 milliards de personnes. Et illusoire de penser qu'un seul laboratoire pourra fournir pour 6 milliards de personnes. Il faut donc augmenter considérablement la production, arrêter la concurrence, définir des productions et pourquoi pas des vaccins multiples. J'ai rien contre le fait qu'il y ait plusieurs vaccins à nos virus, que le vaccin chinois, le vaccin russe arrive, etc. Ils ont chacun leur avantage et leurs défauts, mais En cas d'échec d'un vaccin à un moment donné contre un variant, si on a plusieurs types de vaccins sur plusieurs cibles, et j'insiste sur le mot plusieurs cibles, parce que pour l'instant c'est pas encore tout à fait le cas, bon, ça fera une sécurité. Si on a des effets secondaires avec tel et tel vaccin, si on a des vaccins faits sur une à plus long terme, et c'est pas du tout négligeable de pouvoir dire bah ben celui-là pose un petit peu des problèmes à long terme, il faut savoir on utilisera plutôt celui-là qui en fait moins. Bon, donc ça me gêne absolument pas qu'il y ait plusieurs vaccins. Ce qui me gêne, c'est que la production n'est pas coordonnée et la production réduit encore dans des concurrences de marché. Alors que bon, et troisièmement, ça ne doit pas dépendre des brevets. On ne va pas passer un temps fou à passer à licence sur licence, détermination du sous-producteur, etc. Et en plus, avec des scandales, c'est un bien commun de l'humanité. On n'éteindra pas la pandémie si la pandémie n'est pas éteinte en Afrique et dans certains pays d'Asie du Sud-Est. Or, dans l'état actuel, on aboutit à quelque chose de monstrueux. L'Afrique du Sud, qui produit les vaccins moins chers que en France, pour toute une série de raisons, des vaccins, ben exporte ces vaccins Pfizer et ces vaccins Moderna en Europe. C'est monstrueux. Ça veut dire que, alors qu'il faudrait éteindre ça, bon. Troisièmement, certains vaccins sont très très chers et pas utilisables. Vous ne pourrez pas utiliser les vaccins comme Pfizer et Moderna dans la brousse avec un moins 80 ambulant dans la brousse à Foutban au Cameroun. Vous pouvez peut-être l'utiliser à Yaoundé autour de l'Institut Pasteur. Des gens en périphérie Yaoundé ou même au Brésil, dans certains endroits de la grande ville, le moins 80 sera difficile. Le moins 20 un peu moins difficile, mais le moins 20 dans la brousse, c'est impossible. Or, il faudrait le faire dans la brousse, dans tous les petits villages, etc., etc. C'est une évidence. Troisièmement, dans l'état actuel, bon, il faut aussi continuer à développer de façon fondamentale la recherche sur les différents traitements. Alors, sur Pasteur, c'est embêtant parce que Pasteur, c'est un échec. Mais c'est un échec qu'on peut relier un petit peu à ce qui se passe à Sanofi. Sanofi aussi, c'est un échec. Qu'est-ce qu'on a observé? On a observé les effets pervers du crédit impôt recherche et de la course à la rentabilité. Sanofi et Sanofi Diagnostic Pasteur est devenu une boîte qui a privilégié la rentabilité. La rentabilité, ça veut dire rationalisons si c'est nécessaire. Donc, depuis les années 80, des centres comme Roussel-Luclave, des centres qui ont produit par exemple le RE486, la pilule anti-abortive, etc. Ces centres ont été petit à petit fermés parce que ça n'avait pas d'intérêt d'essayer de faire de la recherche à long terme, de développer des nouveaux médicaments par rapport aux profits immédiats. Sanofi, vous ne l'oubliez pas, il y a quelques semaines à peine, licencie 400 chercheurs avec le savoir ad hoc. Quand vous licenciez des chercheurs avec le savoir ad hoc pour vous limiter à une recherche immédiate, il ne faut pas tout à fait s'étonner que ça patine. Alors, sur Pasteur, il y a différents bruits qui courent. Je vais vous en donner un. Bon, alors, ne me faites pas dire que ce que je dis est absolu. Mais c'est un vaccin qui a été fait par des chercheurs de Pasteur à qui on a dit « produisez-moi un vaccin vite fait, bien fait, etc. » en utilisant l'adénovirus de la rougeole, parce que d'ailleurs la rougeole, c'est un vecteur qui marche bien. Il y a un tout petit, ça marche remarquablement bien chez le singe. Il y a un petit détail en France, c'est qu'on est vacciné contre la rougeole. Et donc on fait des anticorps contre la rougeole. Donc le vaccin a des chances d'être curé beaucoup plus vite, d'être neutralisé beaucoup plus vite chez l'homme que chez le singe, et notamment par la génération John, etc., etc. C'est pas tout. Bon, mais il y a eu des erreurs. Il y a des erreurs de réactifs, des erreurs de bagarres individuelles, etc. Mais ces bagarres n'auraient jamais dû avoir lieu, n'auraient jamais pu avoir lieu si la recherche avait été faite de façon rationnelle et pas dans la recherche. Faisons un vaccin vite fait, bien fait, dans l'immédiat, etc., etc., etc. Bon. Donc, il y a une perte de savoir, il y a une perte de savoir fondamentale, et un des grands problèmes de la précarité, et un des grands problèmes qu'a ma génération, c'est que on aura des difficultés à transmettre si les jeunes sont renouvelés tous les 4 ans, sur le thème travail à court terme, etc., etc. C'est pas comme ça qu'on finit la recherche à long terme. Alors, dans l'immédiat, c'est particulièrement grave. C'est particulièrement grave parce que il y a la même chose que ce qu'on a vu sur les PCR. Il n'y a pas de mise en place d'un plan de production hors privé à grande échelle des vaccins en nombre suffisant. Ça, il faut le réclamer. Si les vaccins sont un bien commun de l'humanité, ils doivent servir à tout le monde et ils doivent servir à tout le monde en France, etc. On doit augmenter la production. Il ne fallait pas attendre quelques semaines pour dire, ah ben Sanofi pourrait produire. Il fallait immédiatement, s'il y avait échec de Sanofi, dire, vous pouvez continuer votre recherche, mais dans l'immédiat, vos systèmes de production, on les réquisitionne pour faire les vaccins qui existent connus, à la condition que les autres veulent bien lever leurs brevets, et que ça se fait immédiatement, et que ça ne dépende pas, là encore, de négociations entre je ne sais plus si c'est Pfizer ou Moderna, qui n'est, je crois que c'est Pfizer et AstraZeneca qui négocient avec Sanofi pour la fabrication. Bon, sur des trucs parfaitement idiots d'ailleurs. C'est pas si idiot que ça de dire Sanofi, c'est produire des flacons en verre en grande quantité, donc on produit les flacons en verre en grande quantité pendant que les autres produisent à toute vitesse sur les chaînes déjà existantes des vaccins ARN. Mais là encore, c'est une question de choix. Bon, ça ne dépend pas. L'arrivée des vaccins ne doit pas dépendre des lois du marché. Et dernier point sur les vaccins, sur la recherche, il faut lever l'opacité qu'a la Commission européenne et la France sur le prix des négociations des vaccins. C'est pas normal qu'on ne sache pas dans quelles conditions ont été passés les marchés. C'est pas normal qu'on s'aperçoive que les prix ont été dans un certain nombre de cas surfacturés. C'est pas normal que sur un système, la boîte qui décidait, ah ben finalement, ça nous intéresse de donner plus aux États-Unis ou plus à l'Angleterre ou plus à la France. Ça doit être fait de façon globale pour tout le monde. Bon, et ça entraîne des retards supplémentaires. Bon, alors bon, un dernier détail quand même aussi, il faut parler un petit peu de logistique. Je vous rappelle que la France est un petit peu en retard. On a enfin dépassé la Roumanie pour le nombre de personnes vaccinées par million d'habitants. Bon, mais je vous rappelle quand même le gag quand Libération a osé sortir début janvier, que ça y est, la vaccination avait démarré et qu'on avait fait une immense opération vantée par le ministère. On avait réquisitionné 2 avions pour l'amener, les vaccins et les amener ensuite en taxi à Nice pour que Nice bénéficie de 5 doses de vaccins. 5 doses de vaccins transférées avec un avion et 2 taxis, ça a été présenté comme le début de l'opération. C'est un ridicule achevé. Le ridicule achevé, c'est que on avait commandé 100 congélateurs pour 14 000 EHPAD, et je vous passe les hôpitaux, etc. Bon, et pour et là-dessus, 54 étaient opérationnels quand Véran était obligé de donner les chiffres. Tout est comme ça.
Ok, merci voilà. Beaucoup Gérard. Jacques, une réponse aussi, oui. Et après ça, on fera un deuxième tour de questions. Donc,
D'accord. C'est sur 2 questions, parce que je vais être un peu orthogonal par rapport à ce qu'a dit Gérard sur les vaccins. Je voudrais juste te présenter une diapo, si je peux. Voilà. Je voudrais répondre aux 2 questions. C'est pourquoi la catastrophe du vaccin français au sein général. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la diapo. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran ou pas là ?
On la voit. Mais on voit la diapo, le partage d'écran. Jacques.
Alors, les vaccins dans le monde avant Covid, c'est 35 milliards de dollars, ce qui est déjà qui est pas mal, hein, en fait. Mais c'est 35 milliards de dollars, c'est moins que le chiffre d'affaires de Sanofi seul. Mais 80% du marché des vaccins, il est tenu avant la Covid par GSK, Merck, Pfizer, Sanofi. Bon. Aucun des 4, même, et Pfizer, j'y reviendrai, aucun des 4 n'est arrivé à produire un vaccin dans l'année. C'est-à-dire que les grosses industries pharmaceutiques, qui sont en fait celles qui ont pratiquement le monopole du marché du vaccin, ne sont pas arrivées. Quels sont les vaccins qui sont sortis ? C'est Moderna, Pfizer, mais parce qu'il a racheté BioNTech, AstraZeneca, qui n'est pas du tout au départ un acteur vaccin, Johnson & Johnson, qui n'est pas du tout un acteur vaccin. Le vaccin Institut Pasteur, c'est avec Merck. C'est-à-dire que la plateforme de la rougeole dont parlait Gérard, c'est un brevet de 2012 qui est vendu en fait et qui est copropriété de l'Institut Pasteur Lille et de Temis. Temis est une start-up autrichienne qui est rachetée par Merck. Et en fait, ils arrêtent le vaccin à la rougeole à partir du moment où en phase 1, ils n'ont pas de résultats probants par rapport aux autres types de vaccins. Sanofi essaie de développer 3 vaccins, il n'y en a aucun qui arrive au bout pour l'instant. Dans le meilleur des cas, ça sera en fait l'an prochain. Dans le meilleur des cas, c'est la fin de cette année, probablement l'an prochain. C'est-à-dire que, et c'est vrai aussi pour... Alors, quel est mon point là-dessus? C'est que que ça soit la recherche ou le développement face à une crise, ça ne peut pas être fait par des grosses structures. Ce qui stérilise, en fait, entre autres la recherche, c'est des instituts absolument énormes qui font ce qu'on appelle de la recherche confirmatoire et pas de la recherche disruptive. Donc, là où il y a la possibilité et la diversité pour répondre à la crise, c'est dans des petites structures. Or, la problématique au niveau français, c'est qu'on est parti avec la culture des années 60, avec des grands mécanos en fait industriels, et on a stérilisé au départ en fait l'ensemble de l'industrie, d'une sorte de réindustrialisation après le problème, la déruralisation française. On a stérilisé en fait la possibilité d'une réindustrialisation au niveau français. Bon, c'est ce qu'on paye maintenant. Mais ma réponse à la question qui est comment on est arrivé là, c'est parce qu'on a mis en place en fait des mastodontes sans réfléchir en fait à avoir une diversité suffisante, que ça soit en recherche ou que ça soit au niveau R&D santé. Le deuxième point sur les thèses et la recherche. Depuis pratiquement la Deuxième Guerre mondiale, depuis que le SMIC existe, le salaire d'entrée des maîtres de conf ou des chercheurs a diminué de manière linéaire pour passer. Alors, moi, j'ai été recruté en 1970. Le salaire d'entrée était à peu près de 2,8 SMIG. Aujourd'hui, on est en dessous de 1,4. En 1990, 95% des thésards, enfin des docteurs, un peu moins au niveau des sciences humaines et sociales, mais c'était même pas vrai, et rentrer et devenir fonctionnaire, rentrer dans le service public, soit au niveau université, soit recherche. Aujourd'hui, c'est moins de 10% et ça continue de diminuer. L'attractivité de l'époque, moi, quand j'ai choisi de faire de la recherche, c'était de dire, OK, je vais peut-être être pas très bien payé, mais j'ai une très, très grande liberté. Aujourd'hui, c'est non seulement mal payé, entre guillemets, mais même si c'est pas bien de dire un truc comme ça, ce qui pourrait être acceptable si j'avais une énorme liberté de recherche. Mais ce qui s'est passé, c'est que non seulement la nouvelle génération de chercheurs est mal payée, elle est mise dans une situation anxiogène parce que en faisant sa thèse, elle sait pas de quoi sera fait son avenir. Et en plus, elle a aucune liberté. Elle a absolument zéro liberté, plus possibilité en fait d'explorer des domaines qui sont différents. Donc, est-ce qu'à travers des états généraux de la recherche, est-ce que ça va changer les choses? Rappelons qu'il y a eu ça en 1982, en 1980-81, juste après l'élection de François Mitterrand, qu'avant cette élection, il n'y avait pas de ministère de la recherche de plein exercice et que le premier ministère qui a été créé qui a été piloté par Chevènement, c'est un ministère de la recherche et de l'industrie. Et c'est à ce moment-là qu'a été mis en place le fonds de recherche technologique qui était la possibilité de réindustrialiser par des petites start-up, en fait, le territoire national. Bon, après, le curseur a été poussé de manière totalement catastrophique avec ce dont parlait Marianic, avec le crédit impôt recherche, etc. Mais on est au niveau de 80-81, enfin, on est en 81, et que les deuxièmes, en fait, états généraux de la recherche, et qui a été une catastrophe, c'est en 2012-2013 de tête. Bon. Moi, je suis pas sûr que les états généraux de la recherche changent quoi que ce soit. Je crois qu'en fait, il y a une vraie révolution à faire, c'est-à-dire que, l'investissement, et comme disait Gérard, a diminué. Il faut revenir à un investissement normal qui est pour la recherche publique, en fait, au moins de 1% et au-delà de 1%, entre 1 et 1,5%, mais surtout qu'on revienne à un fonctionnement de la recherche qui soit débureaucratisé et dans lequel la communauté scientifique reprenne en fait les rênes de son avenir et pas des bureaucrates ou des politiques qui n'ont aucune connaissance et qui sont en train de stériliser totalement en fait la recherche française et tout ce qui s'ensuit derrière. Voilà.
Merci beaucoup, Jacques. On va se retrouver devant un challenge. Je vais rendre la parole à Michel pour les quelques questions qui restent. Il y en a deux, trois. Et puis, juste après, il faudra évidemment répondre aux questions. Et il serait bien qu'on rende la parole tout à la fin à Gérard, qui avait ouvert la séance, je dirais, en sachant qu'on s'est promis de terminer à 9h30. Maxi, donc il nous reste 12 minutes. Michel, à toi pour 2 minutes et les réponses sur 10 minutes.
Il y a une question de Nicole qui a écouté une émission à France Culture avec Sonia Garel. Si Nicole est toujours là, qui évoque l'impact du virus sur le cerveau et diverses interactions cellulaires et qui voudrait en savoir plus sur ce point. Bon, je pense qu'il faut lui répondre quand même. Je ne sais pas si Nicole est là.
Je suis là.
Oui.
Excuse-moi, peut-être donner.
Est-ce que tu veux reformuler la question?
Je l'ai formulée de mémoire. J'ai l'émission. Je peux la retrouver, mais donc derrière il y a la discussion sur le Covid long, c'est-à-dire des séquelles du Covid, mais des séquelles sur le cerveau, ça me semble très grave. D'autre part, il y avait un autre aspect qui me semblait par contre très intéressant au plan méthodologique, et ça rejoint une partie de cette de votre échange, parce que je suis vraiment ignorante là-dessus. C'est les phénomènes d'interaction cellulaire où là il y a, au lieu de penser le monde séparé corps esprit avec un cerveau organisateur de l'ensemble des activités, on commence à comprendre que le mouvement des cellules nous conditionne. Voilà ce qu'il m'apparaît. Ça me semble, au plan théorique, une question fondamentale.
Merci. Je propose, Michel, qu'on fasse le tour de toutes les questions, parce que si on y va une par une, on n'y sera pas au bout. Mm-hmm. Il y avait d'autres choses, non?
Tu peux m'aider, Jean-Luc. Il y avait
sur les journalistes.
Voilà, sur les journalistes, oui. Alors, une question qui dit « Je m'étonne que la réalité que vous décrivez soit assez peu relayée. Même s'il peut être complexe de rentrer dans les détails techniques de vos métiers, il devrait être possible de rendre accessible au grand public les dangers des politiques actuelles qui sont menées. Les journalistes sont-ils à la ramasse ou pas assez libres ?» Non plus.
Ça, c'est sûr.
Voilà, donc c'est vrai que c'est des questions.
Dans le même chat de Fred, il y a une félicitation aux trois intervenants pour la clarté de l'exposé, contrairement à l'attitude des journalistes. Comment fait Marie-Annick? Tu as demandé la parole et après ça, on demande à Gérard de…
Oui, moi, je voulais répondre à Frédéric, justement. Enfin, au moins…
Vas-y, après ça, on laissera Gérard clôturer. Hein, ça me paraît pas trop…
Sur la première partie de la question de Frédéric, elle nous demande si le point de vue est partagé par la communauté universitaire. Alors, très fortement, oui, on a vu l'année dernière en fait, cette opposition à la LPPR qui était vraiment très très forte, qui est en train de repartir ces jours-ci. Il faut bien dire aussi qu'une bonne partie des enseignants, des enseignants-chercheurs, fait l'autruche et il y en a quand même, comme on en a parlé tout à l'heure, qu'il y en a qui ont des égos assez surdéveloppés. Ils pensent qu'ils sont excellents, et on est toujours l'excellent de quelqu'un d'autre hein, dans ces cas-là, et que donc ces restrictions de budget ne vont pas les affecter eux, puisque eux, ils sont excellents, bien sûr. donc ils ne risquent rien. Ça arrive, quand même, c'est assez bien partagé. Mais l'alerte a été quand même très forte pour les enseignants, là. Et pour ce qui est de la presse, et de, ben, je vous laisse juger vous-même. Il y a certains journalistes qui travaillent et qui sont au courant de tout ce qu'on a dit là. Si vous lisez Mediapart, si vous suivez Sylvestre Huet et un certain nombre d'autres journalistes scientifiques qui sont assez au courant de ce qui se passe. Il y a aussi la Pravda du dimanche qui relaie la parole gouvernementale. Mais voilà.
Si j'ai bien compris, on ne recommande pas forcément la lecture du Figaro et l'interview de Ferry.
Tout ce qu'on veut entendre Luc Ferry, c'est
ça. Gérard, hein, je pense que s'il y a d'autres choses, on verra encore aussi.
Alors, je commence par la question qui vient d'être posée. D'abord, les journaux scientifiques de haut niveau disent un certain nombre de choses que vous ne trouverez pas dans BFM TV, ni chez Hanouna, évidemment. Et il y a un côté spectacle dans ce qui a été mis en place. La polémique sur l'hydroxychloroquine, bon, je vous dirai pas ce que j'en pense, mais vous vous en doutez un peu quand même. On en a, au niveau des laboratoires, marre, mais absolument marre d'avoir eu, pendant une certaine période, tous les jours, un tel, dont certains n'avaient aucune compétence virologique. Hein, un professeur de sport qui vient nous expliquer les modèles de l'épidémie et les différents variants, et qui n'y connaît rien. Un épidémiologiste qui a été, c'est Thomson CSF, qui n'a jamais fait d'épidémiologie virale. Bon, ça posait quand même un certain nombre de problèmes. Mais ça passait sur les télévisions, parce que ça fait de l'écoute. Ça fait de l'écoute d'avoir une certaine allure, certaines fois, etc. C'est beaucoup moins intéressant. On a invité très peu Axel Kahn. Bon. Mais ça, c'est lié à un certain type de présentation que vous avez sur France Inter, sur BFM, etc., dans bien d'autres au niveau que la science. Les journalistes ne sont pas à la ramasse, les journalistes font partie d'un système médiatique qui, en dehors d'un certain nombre de journaux, ne sont pas complètement objectifs. Bon, ils sont aux ordres pour un certain nombre d'entre eux, il faut le dire comme elles sont, et d'autres, ils font du spectacle pour avoir le meilleur indice d'écoute. Ça, c'est le premier point. Alors, deuxième point, sur les états généraux de la recherche, bien sûr qu'il y a ça peut faire flop, etc., etc. Et dans l'état actuel, l'ensemble de la communauté universitaire, comme l'a dit Rédic, était profondément mobilisée en pleine période épidémique, qu'il y ait eu, avec une pluie comme on a rarement vu, qu'il y ait eu plus de 25 000 personnes, jeunes précaires, etc., pour manifester contre la LPR, c'est quelque chose d'important. La communauté universitaire est vent debout à l'heure actuelle, et la communauté biologique est vent debout contre la façon dont la recherche est organisée et contre veut la préparer. Alors, on retombe, alors maintenant pour la question qui n'est pas une question politique, scientifique, mais qui est une question sur le Covid long, le Covid touche, et c'était prévisible, pour toute une série de raisons, de nombreux organes. D'abord parce que c'est une particularité, la tempête cytokinique, ça s'est vu dans d'autres infections virales, mais pas comme ça. Pas une tempête aussi large, aussi massive que ça, qui touche en même temps la coagulation, une multitude de facteurs de communication cellulaire et tout, si on appelait tempête ou orage cytokinique, c'est bien quelque chose de nouveau. Et bien sûr, on découvre au fur et à mesure, parce que là aussi la recherche avait fait un certain temps, on découvre aussi des pathologies associées. C'est pas tout à fait nouveau qu'on découvre des pathologies associées et des pathologies un peu plus longues à distance d'une pathologie virale. Et oui, le Covid long, alors moi j'ai fait un Covid, bon, j'ai perdu 12% de ma capacité respiratoire de façon définitive et je suis beaucoup plus fatigué qu'avant. Et je me disais, en faisant, parce que c'est un secret pour personne, le service d'ordre des manifestations sur Paris, j'ai échappé au Covid, je marche très bien, c'est bien mon service d'ordre. Je suis arrivé cet été à la montagne à 1200 mètres, j'ai compris, j'ai vérifié ma capacité pulmonaire et je vous garantis qu'il y a un autre problème que je sens, c'est que le matin je me réveille et je me rendors pendant 2 heures, quoi qu'il arrive, depuis mon Covid. Ça, c'est une affection, c'est vraiment réel et c'est un handicap. Mais il y a d'autres qui ont des soucis psychologiques, des soucis cardiaques, des soucis de coagulation, etc. Le Covid est un système qui en raison même de ses multifactorielles, touche de nombreux organes, et oui, c'est un Covid long. Et un des trucs qui m'hérisse dans les spécialistes médiatiques ou ceux qui sont anti-vaccins ou ceux qui sont dans les médias, c'est qu'ils nous disent « Ah, mais les jeunes sont asymptomatiques ». Oui, les jeunes sont asymptomatiques, sauf quand ils développent un Covid long. Et les jeunes, le nombre de jeunes qui se rendent… Alors, d'une part… c'est en train de changer parce que certains nouveaux variants touchent de plus en plus des gens de plus en plus jeunes. On commence à avoir à l'hôpital des gens très très jeunes. Et deuxièmement, les jeunes qui découvrent 2, 3, 4 mois après le Covid respiratoire qu'ils ont des séquelles, ça c'est important aussi. Et ça aussi faut en tenir compte parce que là aussi il y aurait des aménagements à faire parce que la pandémie a touché beaucoup plus de gens que simplement les gens qui sont partis en réanimation. Et ça c'est un phénomène important. Voilà. Alors je pense que c'est important de voir ça à tous les niveaux. Toutes les tranches d'âge de la population sont touchées et on ne sait pas, on commence à avoir des études, on ne sait pas le retentissement des Covid pédiatriques. Contrairement à ce qui est dit, un certain nombre d'enfants sont porteurs et asymptomatiques, elles sont des voies de transmission, mais il y a des Covid pédiatriques, y compris très jeunes chez les bébés, qui sont très bien décrits récemment avec les nouveaux variants en Grande-Bretagne. On ne sait pas quelles sont les conséquences à long terme chez les enfants. Donc, alors, oui, il y a un processus inflammatoire, comme dit Jacques, mais c'est beaucoup plus fort qu'un processus inflammatoire normal. C'est tout à fait différent, et je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on travaille là-dessus, mais c'est étonnant. C'est étonnant de force et de diversité. Bon, et c'est étonnant par le nombre de cibles qui sont touchées. Donc, qu'il y ait des atteintes générales, cérébrales, etc., malheureusement, ne m'étonne pas du tout. Et malheureusement, ça implique qu'il faut bloquer cette épidémie de façon rapide et rationnelle plutôt que de jouer à l'apprenti sorcier. Voilà. Alors bon, la presse, là encore, ne fait pas son travail. C'est tout. Mais pas toute la presse, j'insiste. Bon, le monde diplomatique, Mediapart, un certain nombre d'autres organes, etc. Parfois Libération, la rubrique Libération est pas mal foutue, au niveau parfois des informateurs, font parfois très bien leur travail. Bon. Par contre, la télé générale, mais par contre, il y a Arte. Il y a parfois des émissions très bonnes sur Arte. Il y a des émissions très bonnes sur France Culture aussi. Mais ce n'est pas des émissions grand public. Comme par hasard. J'insiste sur le mot comme par hasard.
Merci beaucoup. Gérard, il y aura encore eu beaucoup de choses à dire, mais on va arrêter là. Le monde diplomatique, juste une petite citation, la une du monde diplomatique de ce mois-ci, c'est une des questions qui a été soulevée, je ne sais pas si c'est par Jacques ou par Gérard, qui est celle des brevets. Les brevets sont-ils un frein à la recherche hein, quand Gérard a dit les vaccins sont la propriété de toute l'humanité, bon, c'était mieux dit de ce que je viens de dire là. Bon, merci à tous les trois, c'était très clair et très passionnant. On ne peut pas dire que la météo est claire et que vous nous annoncez par contre un week-end très, vous a un peu gâché le week-end, mais bon, c'est normal parce que si j'ai bien compris, pour soigner et guérir, il faut savoir. Donc, il faut qu'on s'explique, il faut qu'on se dise les choses. Hein. Et on était là pour ça. Merci beaucoup. On va peut-être une fois prochaine revenir sur ces sujets par un petit peu à notre biais. Pas ces sujets-là, mais on va revenir sur l'université et tout ce qui se passe aujourd'hui à l'université. On en a parlé un petit peu au niveau de la Fédération de Paris, la loi LPR de programmation de la recherche, ce fameux islamo-gauchisme qui est une donnée absolument scientifique, comme vous le doutez bien, et ce qui se cache là derrière. En attendant, à nouveau, merci à tous ceux qui ont participé, soit en tant qu'auditeurs, soit en tant qu'intervenants. Et puis, on continue à suivre toutes les mobilisations qui sont dans ce domaine-là, avec la Ligue des droits de l'homme ou avec les collectifs et associations qui font ça. Merci à vous toutes et tous. On laisse encore un tout petit peu ouvert pour, si vous voulez, laisser un petit mot sur le chat. Merci. Et puis, bonne soirée.
Merci.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci beaucoup merci. À tous.
Merci à tous.
Oui, c'était très intéressant.
Oui, merci beaucoup. Je n'ai pas réussi à écrire, mais merci. Vraiment, c'était très, très intéressant.